bienvenue sur Radio Galère. Vous regardez l'émission Un lundi avec CQFD. Nous sommes le lundi 16 février, il est 12h. Aujourd'hui, nous allons parler du 249e numéro de CQFD, celui de février 2026. Avec nous au studio, nous avons Gaël, secrétaire de rédaction de CQFD. Nous avons aussi Fabrice Andréani, chercheur en sciences politiques, qui viendra nous parler un peu plus du Venezuela après. Et en studio, nous avons aussi Louise et Neil. Donc, un lundi avec CQFD, c'est tous les mois. C'est normalement les deuxièmes lundis par mois, mais aujourd'hui, nous sommes le troisième. On va voir pendant ce numéro la double page, enfin le dossier qui est consacré à la campagne et aux luttes agricoles. Et est-ce que Gaël, tu peux nous parler un peu de CQFD ?
Oui, alors CQFD, c'est un journal qui a 23 ans d'âge. C'est un journal indépendant basé à Marseille qui est publié tous les mois, mensuellement, avec une équipe de bénévoles et de salariés.
Voilà, donc pour ce 249e numéro, on a notamment du coup ce dossier sur l'agriculture, donc une double page consacrée à la coordination rurale et à la confédération paysanne, mais on a aussi une double page sur la Via Campesina, une entrevue avec Morgan Audi. Donc ce dossier sur l'agriculture, il s'appelle notamment l'article sur la confédération paysanne et la coordination rurale, il s'appelle « La mère des batailles contre le libre-échange ». Non, pardon, c'est pas celui-là, ça c'est l'autre. C'est « Colère dans les prés, fleurissent ». Donc c'est un article qui se concentre surtout sur les rapports entre les deux syndicats, la confédération paysanne qui est donc marquée à gauche et la coordination rurale marquée plutôt à l'extrême droite. Est-ce que Gaël, tu peux nous dire quelques mots sur notamment la coordination rurale ?
Oui, tout à fait. Alors en fait, la coordination rurale, c'est un syndicat qui est beaucoup marqué à droite, voire à l'extrême droite. Mais en fait, il faut distinguer... Enfin, nous, en tout cas, on a remarqué ça en écrivant cet article, c'est distinguer en fait les bases de la coordination rurale et les cadres. Les bases, en fait, elles sont beaucoup plus diverses qu'on ne le pense. En fait, elles sont surtout motivées par un rejet des institutions que la coordination rurale va beaucoup exploiter en désignant le bobo écolo parisien comme étant le problème principal de ses adhérents. Donc une réponse finalement assez simpliste à une situation beaucoup plus complexe qui ressemble fortement à celle du Rassemblement national, mais qui finalement plaît beaucoup aux bases, qui trouvent là en fait une réponse à leurs problèmes du quotidien, mais qui ne sont pas nécessairement racistes et xénophobes. Il y en a, mais pas que. Par contre, ce qu'on a constaté, c'est que les cadres sont... pour le coup, eux, bien à droite. Donc, par exemple, le président de la coordination rurale, Bertrand Ventot, qui va dire lors de son discours d'intronisation qu'il veut faire la peau aux écolos, et puis dans l'article aussi, on égrène quelques noms de cadres qui multiplient en fait les passerelles entre le Rassemblement national ou d'autres organisations d'extrême droite, et puis le syndicat, notamment Christophe Barthès, ancien vice-président de la CR de l'Aude, qui est aujourd'hui député du RN, ou encore l'actuelle vice-présidente de la CR, Sophie Lénart, qui, elle, a été aperçue aux universités d'été en 2024 de l'Action française. Donc on voit en fait que finalement les cadres sont beaucoup plus radicalisés à l'extrême droite que les membres et adhérents basiques.
Voilà, vous parlez de confusionnisme politique dans l'article.
Ouais.
Alors c'est quelque chose qui pose aussi problème à la conf paysanne, puisqu'ils ont dû lutter ensemble contre l'accord UE-Mercosur, mais aussi contre l'abattage le mois dernier. On les a vus sur les mêmes piquets au niveau de la conf paysanne. Donc ce rapprochement avec l'extrême droite, ça dérange. Mais au niveau des adhérents, le principe de souveraineté de chaque section locale prime. Voilà, c'est ce que nous disent les militantes et militants. On peut lire dans l'article que le positionnement des territoires qui ne sont pas les leurs et dont ils ne connaissent pas l'histoire des luttes, les équipes en place ni le contexte politique, les empêchent de s'exprimer sur les alliances qui peuvent être faites entre la Confédération paysanne et la coordination rurale. Donc si beaucoup d'agriculteurs et d'agricultrices sont conquis par les idées de la coordination rurale, c'est aussi pour un positionnement qui est contre l'écologie politique, comme tu l'expliquais. On a notamment Martin, arboriculteur dans l'Aveyron, qui explique cependant qu'il y a beaucoup de positions de militants écologiques qui s'apparentent parfois à du mépris de classe. Voilà, la solution pour lui, ça serait plutôt de revoir l'entièreté du modèle de consommation pour pouvoir changer notre manière de produire, plutôt que de mettre la faute sur le consommateur et sur le producteur. On a aussi Elsa, du syndicat de la Terre et de l'Environnement, une section de la CNT, qui invite tous les ouvriers et ouvrières agricoles à plus se syndiquer afin d'obtenir des chaises dans les chambres agricoles, parce qu'actuellement, c'est le syndicat de patrons proches de l'agro-industrie de la FNSEA qui détient 84 présidents sur 102 en France. Pour continuer ce dossier sur l'agriculture dans ces QFD, on a aussi une double page qui est consacrée à la Via Campesina, avec une interview de Morgan Audi, qui a été réalisée par Neil, qui est avec nous à la technique. La Via Campesina, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, Neil ?
Ouais, est-ce que tu m'entends bien déjà ?
Ouais, très bien.
Tu m'entends bien de l'autre côté du studio ? Ouais, je monte un peu, là c'est mieux ?
C'est parfait.
C'est parfait. Oui, alors la Via Campesina, c'est une organisation syndicale internationale dans laquelle ils revendiquent en tout cas plus de 200 millions de travailleurs et travailleuses. Donc c'est des petits producteurs agricoles. Et donc ça en fait une des plus grandes organisations syndicales dans le monde, une des principales quoi. Ils sont installés dans 182 pays et en fait Morgan Audi, donc elle est maraîchère en Bretagne, dans le Morbihan pour être précis, et actuellement c'est la coordinatrice en fait à l'international dans le monde entier de cette Via Campesina, parce que la Via Campesina fonctionne d'une telle manière que la direction, c'est une direction tournante, et en ce moment c'est en France qu'il y a la direction, et plus particulièrement du côté de Morgan Audi. Et donc c'était assez intéressant de lui parler parce qu'en fait c'est une organisation qui s'est créée au début des années 90, donc 91 ou 93, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais en fait juste après la création de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, justement pour lutter contre ces accords de libre-échange. Et donc c'était parfaitement dans le thème, là, ça c'est ce qu'ils font en fait depuis 30 ans, s'opposer à ce type d'accord. Donc là ils étaient logiquement forcément contre, et depuis un certain nombre d'années, ils préparent en fait des mesures, des propositions pour un autre type de commerce international, enfin un autre type d'échange en tout cas sur le thème de l'agriculture, et c'est un petit peu ce qu'on développe dans l'entretien, donc je te laisse en parler si tu veux.
Oui voilà, moi je vous invite à lire un peu l'interview, elle est vraiment intéressante et ça donne un point de vue qui ne s'oppose pas à ce qu'il y ait un commerce international au niveau de l'agriculture, mais plutôt qu'on pense aux populations locales. Vous parlez au bout d'un moment de démocratie et de souveraineté alimentaire, que c'est vraiment les deux choses qui sont importantes à développer pour la Via Campesina. On va passer à un autre sujet, mais avant ça, on va faire une petite pause musicale. Si Louise, tu peux nous mettre Pendant que les champs brûlent de Niagara, ça serait super.
Accroché aux branches, l'herbe sent encore.
Et rebonjour, on est de retour dans l'émission Un lundi avec CQFD, vous êtes sur Radio Galère 88.4. Il est 12h16. Alors on va passer du coup à l'autre sujet, le sujet sur le Vénuviella, écrit par Gaël. Donc tu l'as titré Dans les serres de l'Empire avec une belle illustration de Quentin Duguay, que je vous invite à aller voir. Donc tu reviens sur l'enlèvement du président vénézuélien Nicolas Maduro par les États-Unis le 3 janvier 2026. Donc il faut préciser que c'est un enlèvement qui est illégal, qui a entraîné la mort d'une centaine de personnes aussi, et dont les médias internationaux ont repris le narratif du gouvernement américain en qualifiant l'enlèvement de spectaculaire. Donc toi, qu'est-ce que ça a été un peu ton approche pour cet article? Qu'est-ce que tu as voulu dire un peu?
Bah, alors déjà, quand je me suis intéressée à cette question du Venezuela, j'en ai parlé autour de moi, dans mon entourage, auprès de militants et militantes plus ou moins intéressés sur cette question du Venezuela, et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui polarisait beaucoup, avec des discours très très idéologiques. Typiquement, le chaviste convaincu qui n'a toujours pas dégrisé de ses mandatures, mandatures de Maduro, et qui continue à ne voir que l'impérialisme américain pour tout expliquer, expliquer tous les problèmes du pays. Et puis l'anti-madouriste qui est le Maduro et qui va finalement se mettre à haïr tout ce qui a rapport de près ou de loin au chavisme, et qui va complètement oublier finalement les agressions quand même impérialistes des États-Unis qui sont multiples et variées et qui posent en fait de gros problèmes au pays. Donc moi j'ai essayé de sortir de ces discours idéologiques et d'aller un peu... D'être factuel en fait, de chercher un petit peu à comprendre ce qui se passe sur place, déjà en interrogeant des Vénézuéliens, ce qui n'a pas été simple parce que beaucoup sont inquiets de parler et préfèrent rester dans l'anonymat ou voire pas du tout parler, mais j'ai réussi à trouver des gens pour me parler, et puis j'en ai parlé donc avec aussi Fabrice Andréani, qui lui m'a permis de comprendre en fait quelles étaient les forces en présence dans le pays, des forces à la fois politiques, militaires et économiques, que du coup je décris dans l'article, et puis il y a le fil des forces sociales que j'ai pas pu développer dans l'article et que j'aimerais développer aujourd'hui avec toi Fabrice, que tu puisses me dire finalement dans l'histoire récente, hein, mais depuis au moins 2014 et les grands mouvements sociaux qu'il y a eu au Venezuela, quelles sont ces forces sociales, comment elles se composent, je te laisse peut-être développer.
Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut distinguer en fait les grands mouvements de mobilisation. Où l'opposition a pris un peu les devants de la scène. Enfin, il faut distinguer, en tout cas, dans ces grands mouvements de mobilisation, il y a une masse, en fait, de plus en plus au fil des grands moments de mobilisation 2014, 2016, 2017, 2019, qui, en fait, c'est un rejet, en fait, du système tel qu'il est en train de se transformer. Un régime autoritaire, et puis après l'usurpation de l'élection 2024, une dictature en bonne et due forme en fait, et du coup là-dedans en fait il y a à la fois des mouvements syndicaux, des syndicats de différentes tendances, du social-libéralisme on va dire jusqu'à le trotskisme, il y a des mouvements libertaires qui sont dans la rue, y compris dès 2014. Il y a toute une série d'associations multiples et variées, mais en fait, dans les grands moments de mobilisation, que ce soit 2014, 2016, 2017, etc., généralement, ce qui se passe, c'est que l'opposition, en fait, qui est plutôt d'orientation libérale, grosso modo libérale, pas si conservatrice que ça en fait sur les mœurs, même peut-être moins que le chavisme, au sens où ils ont eu des députés transgenres par exemple, la première d'Amérique latine en fait en 2015. Cette opposition tend en fait à prendre le dessus en fait en repro en reproduisant quelque part ce qui avait un peu été les limites du chavisme, c'est-à-dire un mouvement politique qui s'impose et qui prend le dessus sur le mouvement social. Et du coup, on a l'impression que tout changement ne peut que venir, pas du mouvement social lui-même, mais de direction, en fait, de leader charismatique, etc. Donc il y a un peu le même phénomène en miroir du côté oppositionnel, c'est pour ça que c'est compliqué. Après, il faut voir que même en 2014, où l'opposition a vraiment pris la tête avec des slogans très durs, alors qu'on n'était pas encore vraiment dans un régime autoritaire, Maduro avait été élu de justesse, mais il avait été élu un an plus tôt. Il n'y avait pas encore le sabotage de l'Assemblée nationale qui a eu lieu un an plus tard. Donc en 2014, très vite, dès qu'il y a les premiers étudiants qui sont morts par balle dans la rue, en fait, la frange droite de l'opposition, qui est celle justement de Maria Corina Machado, qui est prix Nobel de la paix, qui a réussi finalement à être la candidate pour les élections de 2024, qui a dû mettre quelqu'un en substitution parce qu'elle n'a pas pu se présenter, elle prend le dessus en disant « on va demander la sortie de Maduro » sur un slogan dégagiste, en fait. Donc en fait, le dégagisme est incarné, en fait, politiquement par des leaderships, en tout cas ceux qui dominent. Alors évidemment, on peut avoir des mouvements trotskistes, des mouvements qu'on fait dissidence avec le chavisme, à la fois sous Chavez et après Chavez, qui ont les mêmes mots d'ordre, en fait, qui disent en gros il faut renverser la dictature, mais c'est pas eux qui sont les plus visibles, c'est pas eux qui en sont les plus, pour des raisons compliquées qui font que dans des régimes de gauche qui sont devenus autoritaires, les gens, la majorité des gens rejettent en général tout discours de gauche, donc du coup ils se tournent vers ce qui est plus libéral, ce qui représente le capitalisme à l'occidental, etc. Donc du coup c'est un peu cette dynamique là qui est un peu compliquée pour la population, parce que même si la population elle-même n'est plus du tout aussi polarisée qu'à l'époque de Chavez, où il y avait des deux côtés des forces, des capacités de mobilisation très fortes, surtout au début des années de Chavez, avec des clivages de classe en fait, qui recoupaient plus ou moins les clivages partisans. Sous Maduro, on n'est plus du tout là-dedans. Je veux dire, même en 2014, ils n'ont pas du tout mis en face dans la rue autant de gens que l'opposition, encore moins en 2017. Et surtout, peu à peu, il y a non seulement dans l'intérieur du pays où la crise, où l'effondrement commence beaucoup plus tôt, mais aussi dans les capitales et dans les grandes villes, il y a des gens des quartiers populaires qui se joignent aux mobilisations de plus en plus, alors que la base oppositionnelle est plutôt, on va dire, gravite plutôt autour des classes moyennes, alors classe moyenne très précarisée à partir de 2014, mais classe moyenne quand même. Donc c'est pas, mais de plus en plus de gens qui viennent des quartiers populaires, des barrios, qu'on appelle les barrios, qui est l'équivalent des favelas en fait au Brésil, c'est les quartiers populaires informels au-dessus des métropoles. Donc en fait c'est ça qui est un peu, et il y a plusieurs niveaux, et à partir de au moment où le madurisme devient très fort policièrement, enfin en termes de force policière et de répression, pas seulement politique mais sociale aussi, c'est-à-dire tout ce qui est exécution extrajudiciaire dans le cadre de la lutte entre guillemets contre la criminalité, dans l'idée de séduire les classes moyennes, justement. Mais là, il y a de l'organisation de base qui vient des quartiers populaires, des maires notamment, des jeunes assassinés, des maires des détenus, qui ont un protagonisme, en fait, un rôle très, très important. Et du coup, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un peu des petits espaces pour que toutes ces différentes organisations, à la fois syndicales, à la fois de quartiers populaires, à la fois de défense des détenus politiques, occupent de plus en plus d'espace. La question étant, dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent imposer des mots d'ordre et faire bouger les choses sans être forcément tributaires ou dépendre de ce que vont décider les leaderships politiques qui, eux, en fait, penchent beaucoup plus à droite, en tout cas la direction, y compris dans le mouvement syndical. Vous avez des gens qui ont pu appeler pragmatiquement à voter pour le candidat de substitution de Machado, mais qui sont contre une intervention militaire, qui sont contre les sanctions américaines, mais bon, qui ont voté, qui ont fait une stratégie de front unique en disant on dégage Maduro et puis on verra après, mais au moins si on a le droit de faire grève plus facilement sans se faire réprimer, si on peut, en espérant qu'il y aurait une petite ouverture, quoi. Donc en fait toute la dynamique elle est assez complexe et ça peut bouger dans un sens ou dans l'autre. Après, les gens qui regardent de l'extérieur, et les amis qui sont dedans et qui sont pris, ce qu'ils essayent, c'est d'aménager un espace qui soit autonome, en fait, de lutte, qui soit pas justement dépendant des agendas oppositionnels des partis dominants.
Et donc depuis le 3 janvier, qu'est-ce qui a changé? Parce que dans la documentation que tu m'as envoyée pour que je prépare mon article, j'ai lu quelques communiqués de gauche non madouriste qui dénonce l'agression impérialiste des États-Unis, mais finalement qui propose pas tellement de voies de substitution, qui ne trace pas en fait de ligne de fuite face à la situation. Toi, tu as sûrement des contacts aussi sur place qui te parlent. Quelles sont leurs stratégies de recomposition
Disons que là, il y a un espèce d'attentisme en fait jusqu'à l'élection de 2024. Alors, la répression était très forte avant, mais alors, entre les grands mouvements de mobilisation, il y a eu des années où il y a eu essentiellement des mobilisations syndicales très fortes et de la gauche syndicale, que ce soit en 2018 notamment. Il y a eu plusieurs phases de lutte avec des mots d'ordre qui pouvaient appeler vers la grève générale. Mais il y a toujours un problème par rapport à ce mot d'ordre parce que c'est perçu comme une atteinte à la sécurité de l'État. Mmh. Donc on est encore plus facilement capturable ou arrêtable, séquestrable en fait. Voilà. Donc en fait, et avec le vol de l'élection de 2024, ce qui s'est passé, il y a eu une mobilisation populaire spontanée, curieusement à laquelle l'opposition qui avait peur de perdre en fait le dessus n'a pas appelé à rallier, mmh. alors que là, si vraiment ils voulaient obtenir une fracture dans l'armée, c'était le moment ou jamais où le faire. Mmh. Après s'être plaint pendant des années que soi-disant les gens des quartiers ne venaient pas manifester, en fait ils venaient, mais pas avec leur mot d'ordre propre, quoi. Et en fait là, ce qui se passe, c'est que du coup il y a en fait un jeu qui est dans quelle mesure est-ce qu'on peut réclamer, revenir sur des mots d'ordre, on va dire, peut-être moins maximalistes, pour pas effrayer, entre guillemets, ce qui reste des listes chavistes qui sont incrustées au pouvoir, et qu'ils se mettent pas, qu'ils fassent pas un gros coup de filet comme en 2024 où ils ont arrêté 2500 personnes en quelques semaines, quoi, et tué 30 personnes en 3 jours. Donc en fait, la question c'est ça, c'est comment est-ce qu'ils arrivent à obtenir là, par exemple, sur des mots d'ordre clairs, libération des détenus, revalorisation des salaires, et en fait ils essayent de naviguer peu à peu dans cet espace où ils savent que, pour le formuler comme ça a été fait par un activiste collègue justement qui lui a été arrêté à 2 reprises par le madourisme, bon, pas très longtemps, quelqu'un qui avait travaillé avec Chavez à la base, il est allé dans une audition qui est organisée par l'Assemblée nationale au sujet d'une loi d'amnistie. Bon, voilà, on ne sait pas très bien ce que ça va donner, c'est peut-être un moyen de blanchir les chavistes aussi, enfin les chavistes au pouvoir. Et il a dit, en fait, il avait en face de lui donc un des hiérarques du régime, à savoir le beau-fils, l'ex-beau-fils de Chavez. Il lui disait, en fait, bon, c'est très bien ce que vous faites maintenant, vous essayez d'ouvrir et tout, mais le problème, c'est que pendant des années, nous, on a eu un pistolet sur la tempe, et vous, vous êtes obligé de le faire maintenant, parce que vous aussi, vous avez un pistolet sur la tempe. Et en fait, ça résume exactement la situation, c'est-à-dire qu'en gros, même si les gens sont contre l'intervention américaine, tout ça, ils se disent, bon, bah ok, c'est une opportunité, mais ils peuvent pas faire n'importe quoi, parce qu'ils sont sous surveillance américaine. Donc en fait, comment est-ce qu'on peut jouer là-dessus, sans montrer qu'on est pour les Américains, parce que dans ce cas-là, on tombe sous le coup de la loi. Ce qui est bon, voilà, mais en même temps, mais en profitant de ça pour obtenir des petits espaces de liberté, peu à peu, pour reconstruire en fait un espace de mobilisation, voilà, plus pluriel, quoi.
Oui, quand tu parles de la libération des détenus, c'est des prisonniers politiques qui ont été ramassés, récupérés dans la rue pendant les mobilisations sociales, qui ont été enfermés à cause de ça.
Il y a de tout et n'importe quoi. Il y a des dirigeants d'opposition connus, il y a des dirigeants syndicaux, il y a des gens qui ont pu être arrêtés parce qu'ils avaient un statut WhatsApp qui ne plaisait pas aux militaires qu'on révisait leur téléphone et qui les ont arrêtés. Il y a des gens qui sont aussi juste en fait séquestrés. Parce que, comment dire, l'arrestation des les rafles en fait deviennent un business pour les corps de sécurité, parce que la moindre chose que veulent obtenir les familles, même pour savoir où ils sont détenus, pour avoir droit de visite, pour leur apporter à manger, etc., tout ça se monnaie. Et comme les salaires sont très très bas, comme à tous les échelons de l'État, il y a une histoire de privatisation en trompe-l'œil de l'État où en fait comme dans beaucoup de pays qui s'effondrent en fait, où tout devient un business, dont la prison. Et donc c'est pour ça aussi, là par exemple, ils disent qu'ils veulent relâcher des gens, mais il y a plein de gens, ils ne savent même pas où ils sont. En fait, ils ne savent même pas dans quelle prison ils sont, quel corps les a arrêtés, pourquoi, sur quel motif. Bon, après oui, dans les phases de une grosse partie de ces prisonniers ont été arrêtés sur des accusations de terrorisme, de trahison à la patrie, d'incitation à la haine. aussi. Mmh. Ils ont fait passer une loi similaire contre la haine à celle que le macronisme voulait faire passer il y a quelques années, où en fait les messages d'incitation à la haine sur les réseaux sociaux, alors évidemment c'est toujours la haine contre les puissants, bah en fait peuvent être passibles de prison. Donc là, donc voilà, donc c'est des gens qui ont pu arrêter dans des configurations très différentes, mais une grosse partie, oui, en 2024. De fait, une grosse partie de ceux qui relâchent, là, c'est ceux qui avaient été arrêtés en 2024.
D'accord.
Donc c'est assez... ouais.
Et très rapidement, une dernière question, parce qu'on va terminer, mais juste une partie prospective. Toi, est-ce que tu as une idée de comment ça peut se passer maintenant au Venezuela, sachant que... voilà. Le président Nicolas Maduro a été capturé, il ne devrait pas sortir de sitôt des États-Unis. Delcy Rodríguez est au pouvoir par intérim, mais...
Bah, les amis, collègues ou camarades sur place sont quand même très prudents. Ils me disent, on a quand même, il y a des ouvertures petites, on a quand même une dictature qui est, maintenant doublée d'un protectorat, quoi. Mmh. Voilà, donc en fait, et ils savent très bien que dans l'agenda américain, la priorité, c'est pas la démocratie, bien évidemment. Encore une fois, on ne sait pas. Enfin, cela étant, il y en a qui misent aussi sur le fait que il faut pousser ces espaces pour qu'ils s'ouvrent, pour obliger à ce que ça devienne quelque chose de prioritaire dans l'agenda, la restauration des libertés en fait, pleine et entière, parce que là, les gens qui sont relâchés, ils sont relâchés sous contrôle judiciaire, donc ils rejoignent la masse des 10-15 000 personnes qui sont sous contrôle judiciaire depuis 15 ans, quoi. Des anciens détenus, en fait. Il y a une espèce de jeu par rapport à ça. Après, Delcy Rodríguez a aussi son agenda propre à elle. Et on peut imaginer qu'elle est un peu entre deux, enfin qu'elle veut à la fois garder des secteurs, enfin essayer de garder ou reprendre la main sur l'appareil répressif qu'elle ne contrôle pas forcément totalement. C'est d'autres secteurs qui sont dits plus radicaux, machin. Mais de l'autre côté, qu'elle peut se dire, en fait, s'il y a une récupération de l'économie grâce en fait, au fait qu'ils relancent l'économie pétrolière, qu'ils ont droit d'exporter aux États-Unis à nouveau, etc., elle peut miser sur le fait que s'ils font des élections suffisamment tard, elles seront peut-être pas forcément... ou en tout cas, elle pourra garder la main sur le chavisme qui deviendra une force d'opposition. Après, le problème, c'est que, comment dire, dans la liturgie, dans la théologie politique, j'ai envie de dire, du chavisme, il y a quand même l'idée que les autres ne reviendront jamais et qu'on est là pour rester à... pour toujours, en fait. Voilà, ce qui est un peu, comme dans toutes les grandes... Enfin, voilà, tous les phénomènes qui ont été vus comme des révolutions, qui ont été... au bout d'un moment, les révolutionnaires disent, nous, on va jamais quitter le pouvoir, quoi.
Ouais.
Donc ça, c'est un truc très fort, y compris dans une partie des bases qui sont réduites, mais qui sont là. Donc comment est-ce qu'elle compose avec ça? Bon, ça reste à voir, mais ça va vraiment dépendre de la capacité de la mobilisation autonome et les risques que sont prêts à prendre les gens en reprenant les rues, en fait.
Mm-hmm.
Ça, c'est clair.
Ok, merci Fabrice pour tes éclairages.
Merci beaucoup Fabrice.
Merci à vous.
Tu as peut-être des ressources sur lesquelles on peut s'informer pour la situation au Venezuela?
Des ressources là, en français?
Un peu dans toutes les langues, quelque chose sur lesquelles on peut s'informer.
Je trouve que... pour s'informer là, dans l'immédiat, les
c'est
médias français,
voilà.
Ouais, c'est QFD, c'est très bien. Mediapart font un boulot pas mal. Les médias publics sont moins, enfin, ils sont pas, ils sont beaucoup moins en fait dans le discours atlantiste ou pro-américain, comme on peut leur reprocher généralement. Généralement, les gens qui travaillent sont quand même bien informés. Après, il faut toujours distinguer les éditorialistes, les gens qui commentent, de celles et ceux qui vont chercher l'info sur le terrain. En fait, d'ailleurs, parfois, c'est les mêmes correspondants qui écrivent un papier pour Mediapart ou qui interviennent sur Radio France ou pas. C'est pas si dégueu que ça, en fait, avec le temps, voilà.
On continuera de s'informer avec tes écrits, avec CQFD, alors. Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. Merci Fabrice, merci Gaël.
Merci à vous.
Merci Indil, merci Louise. On se retrouve du coup normalement le 16 mars, ça a confirmé, pour la prochaine émission de CQFD. On vous invite à aller lire le numéro de février. Moi je vous conseille aussi particulièrement sur la situation en Syrie et au Rojava, qui avait été discutée au dernier numéro. Allez le consulter. Je vous dis au revoir à tout le monde. C'était un lundi avec CQFD sur Radio Galère 88.4. Bonne journée à tous.
¿Quieres divertirte?